Bonjour à tous. Donc, nous sommes engagés depuis mardi dernier dans la dernière partie du cours. Et pour des raisons que j'avais expliquées au début de la dernière séance, nous avons commencé par considérer le ministère public de Jésus jusqu'à sa passion. L'objet de cette première séance, ce premier chapitre de la dernière partie, mardi dernier, c'était d'essayer de voir comment, dès avant Pâques, Jésus pouvait être perçu, jusqu'à un certain point au moins, comme incomparable, c'est le mot que j'avais employé, comme unique parmi les humains. J'avais terminé en attirant l'attention sur l'expression « le Fils de l'homme », l'expression très présente, en particulier dans les évangiles synoptiques. Ah, bien sûr, c'est une expression qui est empruntée au livre de Daniel, et dans le livre de Daniel, elle a une connotation eschatologique, hein, le Fils de l'homme venant des nuées du ciel. Et cela suffit à expliquer que Jésus ne dise jamais « Je suis le Fils de l'homme ». Il est un homme que l'on voit sur terre, en Palestine, autour du lac de Tibériade, sur les routes de Palestine ou à Jérusalem. Et en même temps, cependant, Jésus semble bien parler indirectement de lui dans ces fameuses formules « Le Fils de l'homme sera mis à mort le troisième jour et ressuscitera ». Et le fait que cette expression soit aussi fréquente dans les évangiles synoptiques, qu'elle soit mise sur les lèvres même de Jésus, atteste son importance, sa signification. Jésus est bien le Fils de l'homme, pleinement de notre humanité, mais ce Fils de l'homme, pleinement de notre humanité, est inséparablement celui qui est appelé à revenir un jour dans la gloire. Voilà la portée, si vous voulez, de cette expression extrêmement marquée dans les évangiles synoptiques. Et je terminais en disant que, si on récapitule ce que nous avons vu avec les termes Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, on peut dire que, sans pouvoir pénétrer, bien sûr, le mystère de la conscience de Jésus, on peut au moins dire que Jésus a été reconnu et s'est reconnu lui-même, s'est perçu lui-même comme cet homme, pleinement homme, le Fils de l'homme, en qui s'exprimait, se manifestait Dieu même, la présence de Dieu parmi les hommes. C'est cet homme même, en tout cas, qui, dès avant Pâques, a été nommé Fils de David, Fils de Dieu. Christ. Christ plutôt par les Juifs, comme Simon, qui puisait en quelque sorte dans le vocabulaire disponible de la tradition juive ce terme Messie, Christ, mais il a été aussi nommé Fils de Dieu, en particulier par le centurion. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Alors, encore une fois, avant Pâques, ceux qui s'exprimaient ainsi, que ce soit les Juifs comme Simon-Pierre, ou les païens comme le centurion romain, ne se doutaient sans doute pas, certainement pas, du sens profond de ces expressions. Mais en fait, c'est déjà beaucoup qui s'est pu, dès avant Pâques, s'élever à une certaine reconnaissance du mystère de Jésus comme Fils de Dieu. Alors, nous allons maintenant avancer d'un pas, et nous allons considérer ce qui est vraiment le centre du centre, le cœur du cœur, le mystère pascal. Cet événement de Pâques, cet événement pascal, entendu au sens le plus large du terme, l'événement pascal comme incluant à la fois la passion, la mort et la résurrection, c'est cet événement qui était l'événement décisif. Et c'est à la suite de cet événement que les témoins des apparitions ont pu dire vraiment, il est Seigneur, il est Christ et Seigneur, il est Fils de Dieu. Alors ce que je viens de dire commande déjà la structure toute simple de ce chapitre. Premièrement, la mort de Jésus. Deuxièmement, est-ce seulement l'homme Jésus qui meurt sur la croix, ou faut-il dire que, de quelque façon, cette passion, cette mort de Jésus affecte Dieu même? Ce sera le sujet du second développement que j'intitule « La passion de Dieu ». Ensuite, il y aura un bref, très bref développement à propos de l'expression qu'on trouve dans le credo, dans le symbole des apôtres, hein, « Il est descendu aux enfers ». Et puis, quatrième développement, ce sera la résurrection. Voilà. Bon, je prévois en gros de parler de la passion et de la mort dans la première partie de cette séance, et je prévois de parler de la résurrection après la pause. Bon. Il est descendu aux enfers, je ne sais pas trop à quel moment ça viendra. Alors, essayons de vous avancer donc dans cette ligne. Première étape, donc, la mort de Jésus. Alors, un tout petit mot d'abord sur les causes historiques de la mort de Jésus. Il faut commencer par le plus extérieur, si vous voulez, c'est pas forcément le plus simple d'ailleurs, mais enfin, disons quelques mots sur ces causes historiques de la mort de Jésus. Quand on regarde dans l'histoire, c'est assez frappant de voir l'évolution. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et encore jusqu'au XXe siècle, on a beaucoup insisté sur la responsabilité des Juifs, et même de façon outrée et excessive, hein, parce que faut se rappeler dans le contexte de l'antijudaïsme à l'époque moderne, où il y a eu... On a renchéri là-dessus. C'est tout le peuple juif qui devenait, à la limite, le responsable par excellence de la mort historique de Jésus. Voilà. Et puis, il y a eu un certain retournement depuis quelques décennies, pour des raisons qui sont liées aux suites au drame de l'Holocauste, la réhabilitation de la judaïté de Jésus, ce dont j'avais parlé au début du cours. Il y a eu un renversement des positions. Et on en est venu plutôt à disculper davantage les Juifs et à faire porter la responsabilité principale de la mort de Jésus sur les Romains. Alors, c'était très sensible dans une émission qui avait connu un certain succès il y a quelques années, l'émission Corpus Christi, qui avait été diffusée par Arte. Vous voyez bien, c'était très sensible, changement de perspective. On essayait de disculper au maximum les Juifs, et par contre on insistait beaucoup relativement sur la responsabilité historique des Romains. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut, disons, s'en tenir à une position, je crois, qui essaye de reconnaître à la fois la responsabilité évidente d'un certain nombre de Juifs, et tenir en même temps, de fait, la responsabilité des Romains, et donc à travers eux, finalement, des païens. Quelques précisions doivent être ici apportées à propos de cette mort de Jésus, donc, que l'on date très précisément du 7 avril de l'année 30. Première précision à apporter, c'est que la crucifixion était un supplice principalement romain, mais pouvait être parfois aussi pratiqué par les Juifs. Voilà. En tout cas, c'est clair qu'il y a une responsabilité directe des Romains qui ont finalement, à travers Pilate, ordonné la crucifixion de Jésus. Deuxième précision qu'on peut apporter, qui est très très importante, c'est que la responsabilité du côté juif n'est pas une responsabilité du peuple juif en son entier. Ce n'est même pas une responsabilité de tous ceux avec qui Jésus était, disons, auquel, c'est même pas une responsabilité, de tous ceux à qui Jésus était confronté. Je veux dire par là que les pharisiens, par exemple, ne semblent pas avoir été directement responsables. Ils l'ont été indirectement, mais ils n'ont pas été directement responsables de l'accusation et de la condamnation finale. D'après les historiens, les exégètes, il semble que les Juifs qui jouèrent un rôle actif dans la condamnation de Jésus furent très vraisemblablement les Sadducéens, plutôt que les pharisiens. Les Sadducéens, c'est-à-dire le parti auquel appartenaient les grands prêtres. Voilà. Cela dit, même si on arrive du point de vue historique à déterminer les responsabilités immédiates du procès et de la mort de Jésus, il faut en même temps reconnaître que les évangiles laissent entendre qu'il y a eu comme une conspiration universelle contre Jésus. Il y a bien sûr des responsabilités immédiates au plan historique, mais ce que les évangiles laissent entendre, c'est qu'à travers les Sadducéens ou à travers Pilate, c'est finalement l'ensemble du monde qui s'est ligué contre Jésus. Et c'est d'ailleurs symbolisé de façon très très nette par le fameux écriteau Jésus, enfin le roi des Juifs, qui était écrit en hébreu, en grec et en latin, d'après l'évangile de Jean, de manière de signifier le caractère universel de cette conspiration contre Jésus. Alors, je n'en dis pas plus sur ces causes historiques de la passion de Jésus, ou ces responsabilités historiques immédiates de ce procès et de cette mort de Jésus. La question à laquelle je voudrais en venir, qui est une question plus directement théologique, si vous voulez, c'est la question suivante. Comment interpréter le fameux cri de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La question a été en effet posée à l'époque contemporaine, en particulier par un théologien dont je parlerai plusieurs fois aujourd'hui, un théologien protestant qui s'appelle Jürgen Moltmann. Même s'il est vrai que Jésus a été condamné, donc abandonné finalement par des Juifs et par des païens, le cri qu'il a proféré sur la croix ne laisse-t-il pas entendre qu'il a été finalement abandonné par Dieu même, par son Père? Voilà la question radicale que pose Jürgen Moltmann. Je vous ai mis quelques lignes de ce théologien dans son ouvrage « Le Dieu crucifié ». Il dit ceci: « L'abandon exprimé par le cri que Jésus jette en expirant et correctement interprété par les paroles du psaume 22 doit être strictement compris comme un événement entre Jésus et son Père et ainsi comme un événement entre Dieu et Dieu. » Et un peu plus loin, Moltmann précise sa pensée en disant, vous allez voir, c'est très, très radical, hein, c'est comme blasphémateur que Jésus fut rejeté par les légistes de son peuple, c'est comme séditieux qu'il fut crucifié par les Romains, donc d'un côté, il a été abandonné par un certain nombre de Juifs, parce qu'il donnait le sentiment d'abolir le sabbat, etc. De notre côté, il a été abandonné par des Romains, à travers eux, symboliquement, les païens. Mais Moltmann continue, en définitive, et plus profondément, Jésus est mort du fait de son Dieu et Père comme l'abandonné de Dieu. Moltmann interprète, au fond, de façon très, très littérale, radicale, hein, ce cri de Jésus sur la croix. Et il continue, dans le contexte théologique de sa vie, cette troisième dimension est la plus importante. Seule, elle distingue sa croix des nombreuses croix subies par des hommes oubliés et son nom au cours de l'histoire du monde. En disant cela, Moltmann touche évidemment un point capital. On ne peut pas nier que d'après les évangiles, Matthieu, Marc, Jésus a effectivement prononcé cette parole à l'adresse de son Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? On ne peut pas nier cela. Cependant, la réflexion de Moltmann appelle, de mon point de vue, un correctif. En effet, en Jésus sur la croix, il n'y a pas seulement l'expérience d'être abandonné, il se sent, il se ressent, il se perçoit comme abandonné, mais il n'y a pas seulement cela, en Jésus sur la croix, il y a aussi, en Jésus sur la croix, une attitude que l'on peut exprimer par le verbe croire ou par le substantif la foi. Ce que je veux dire par là, ça peut sembler audacieux d'une certaine manière, parce qu'on peut dire, Jésus, il est le Fils de Dieu, a-t-on le droit de lui attribuer une forme de foi, une expérience de croire ? Mais ce que je veux dire par là, pourtant, c'est que si Jésus prie à cette heure cruciale, s'il prie, c'est justement parce que demeure en lui, présente la relation filiale vis-à-vis du Père. Si on prend simplement le contenu de cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, on entend bien sûr que l'abandon. Jésus s'est perçu, il s'est ressenti lui-même comme abandonné sur la croix. Mais le fait même que Jésus, jusque dans cette heure cruciale, continue à s'adresser à Dieu, son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Manifeste la persistance, jusqu'à ce moment-là, de ce que j'appelle sa foi. Il demeure lié à Dieu, son Père, jusque dans cette heure nocturne. Alors, dire cela, évidemment, n'abolit pas l'épreuve. Et je crois que Moltmann a raison d'attirer l'attention sur la radicalité de ce que Jésus a dû effectivement éprouver sur la croix. Mais dire cela invite à reconnaître que l'épreuve, si radicale qu'elle ait été, et Dieu sait si elle l'a été justement, cette épreuve n'est pas pour autant la suppression de la relation entre Jésus et son Père. Une relation qui s'exprime précisément sous la forme de la prière. Prière sous forme de question, comme souvent dans les psaumes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il faut veiller ici à ne pas opposer la version lucanienne et la version qu'on lit chez Matthieu et Marc, parce que c'est l'un des arguments que développe Moltmann. Moltmann dit, Matthieu et Marc attribuent à Jésus la parole du psaume 29, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais Luc atténue les choses, parce que lui, il attribue à Jésus sur la croix la parole « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », parole qui vient du psaume 31. En réalité, les choses sont plus complexes que cela. Parce que d'un côté, le psaume 22, qui commence en effet par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» se termine par la louange. Et inversement, le psaume 31, dans lequel on lit « Père, entre tes mains, mon Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit », c'est un psaume qui, par ailleurs, est un psaume de détresse. Donc je ne crois pas qu'on puisse raisonner en opposant, pareillement, la version de Matthieu et Marc d'un côté, et la version de Luc de l'autre. Ce que je veux en tout cas souligner, c'est que il ne faut pas, au nom de l'insistance sur l'abandon de Jésus par son Père, en déduire que Jésus cesse d'être en relation avec son Père, ni non plus en déduire que Dieu, le Père, abandonne Jésus. Jésus se perçoit lui-même comme abandonné par le Père. Mais il ne faut pas en déduire qu'il y aurait abolition de cette expérience de relation filiale dont Jésus témoigne par ailleurs à travers tout le reste de son ministère public. Au fond, l'enjeu, c'est de reconnaître que l'expérience de l'abandon, telle qu'elle a été éprouvée par Jésus, certainement sur la croix, cette expérience de l'abandon et l'expérience de la foi ne s'exclut pas, mais qu'au contraire, Au contraire, dans le cas de Jésus, elles s'impliquent mutuellement. Parce que dans une situation où l'on éprouve un abandon extrême, il n'y a pas d'autre moyen d'être en relation avec Dieu que de crier vers lui. Précisément parce qu'on continue de croire en lui, malgré tout. Alors même que Dieu, le Père, ne répond pas. Et inversement, jamais la foi ne manifeste autant sa propre vérité ou sa propre profondeur que lorsqu'elle surgit comme un cri, dans une situation où aucune assurance ne peut détourner de l'épreuve, dans une situation où on ne dispose d'aucun appui, si ce n'est précisément ce Dieu que l'on continue à invoquer dans la nuit, parce que jusque dans la nuit, on continue de croire en lui. Je crois que, à la fois, j'entends bien l'insistance de Moltmann, hein, Jésus a réellement dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais en même temps, je corrige un peu l'approche de Moltmann, parce que je pense qu'il est important de tenir que, dans le cas de Jésus, cet abandon n'empêchait pas le maintien, la persistance jusqu'au bout d'une attitude de confiance, de foi. Remarquez, on pourrait déjà dire la même chose à propos de Gethsémani. On voit bien que Jésus est dans l'angoisse, la déréliction, le mot angoisse est employé quand même par l'Évangile. Or, à cette heure même de Gethsémani, il continue néanmoins de s'adresser à son Père. « Père, si tu veux que cette coupe passe loin de moi. » Voilà. Donc il n'y a pas à opposer l'un et l'autre. Il faut, au contraire, en tout cas c'est ce à quoi le récit évangélique nous invite, essayer de comprendre comment en Jésus même il y a pu avoir, jusque dans cette heure cruciale entre toutes, qu'à le dire, comment il y a pu avoir en Jésus, inséparablement, l'expérience de se sentir abandonné par son Père et le maintien de sa relation vivante avec ce même Père qui continue d'invoquer jusque dans la nuit, jusque dans l'épreuve de la nuit. Voilà ce que je voulais dire d'abord sur la mort de Jésus. Mais à partir de là, il faut franchir un pas de plus et se demander, bien sûr, c'est un homme, Jésus, qui est mort sur la croix. Mais cet homme, dans la foi, la communauté chrétienne le confesse comme le Fils de Dieu. Alors s'il est vrai que Jésus n'est pas simplement un homme parmi d'autres, mais que cet homme est lui-même le Fils de Dieu, alors est-ce que ça n'implique pas que ce qui est advenu à Jésus à l'heure de la croix atteint de quelque manière l'être de Dieu ? Et nous franchissons ici un pas de plus. Nous passons vraiment à une réflexion directement théologique. Est-ce que la passion de Jésus n'est pas révélatrice d'une forme de passion en Dieu même ? Voilà. J'ai mis en exergue de ce deuxième développement une phrase du père François Varillon dans son ouvrage qui s'intitule justement « La souffrance de Dieu ». Il écrit ceci. Le concept d'un Dieu passible, d'un Dieu qui souffre, est peut-être un scandale pour la raison. Mais la réalité d'un Dieu impassible révolte le cœur qui a ses raisons. Paradoxe, très bien formulé par le père Varillon. Alors, si on interroge la tradition, je crois qu'il faut commencer par rappeler la position traditionnelle des chrétiens sur ce sujet. Si on interroge la tradition, le christianisme ancien, les premiers siècles, l'histoire de la théologie, on constate qu'il y a bien eu des pressentiments de cette passion de Dieu, de cette souffrance de Dieu, enfin, la passion de Jésus comme révélant une passion en Dieu même. En particulier chez un père de l'Église du IIIe siècle, Origène, qui, dans l'une de ses homélies, écrit « Le Père lui-même n'est pas impassible ». Voilà. Donc c'est un passage dans lequel Jésus médite sur la passion de Jésus et dit bon, il faut comprendre que, bien sûr, c'est la passion de l'homme Jésus, mais Jésus est le Fils de Dieu et il faut comprendre que cette passion atteint de quelque manière Dieu lui-même, que, comme il dit, le Père lui-même n'est pas impassible. Mais en dehors de cette phrase d'Origène et de quelques autres références qu'on peut retrouver ici ou là, il faut reconnaître que, de façon générale, les auteurs de la tradition, les pères de l'Église et aussi les auteurs du Moyen-Âge, ne raisonnent pas d'abord dans cette perspective. Pourquoi ? Parce que, nous l'avons vu quand j'exposais la doctrine du Concile de Chalcédoine, ce qui est prioritairement souligné par les pères de l'Église et les auteurs médiévaux à leur suite, c'est qu'il y a en Christ union de deux natures distinctes. Vous rappelez la définition du Concile de Chalcédoine, le Christ, une personne en qui se rencontrent deux natures. Mais ces deux natures sont distinctes. Certes, elles ne doivent pas être séparées, mais elles sont distinctes. Vous rappelez l'argumentation de Cyril d'Alexandrie contre Nestorius et puis celle de Léon le Grand contre Eutychès. Eutychès qui, au fond, prétendait qu'il y avait une seule nature, en laissant entendre du même coup que l'humanité du Christ était comme absorbée par sa divinité. Et contre cela, Léon le Grand, le pape Léon, avait répondu « Il faut vraiment tenir qu'il y a deux natures distinctes, la nature humaine et la nature divine dans le Christ. » Alors, cette distinction entre les deux natures humaines et divines du Christ n'empêchait pas les pères de l'Église de souligner en même temps l'union du Verbe fait chair. Les deux natures, si distinctes soient-elles, se rencontrent en une seule personne. C'était la définition même du Concile de Chalcédoine. Et au nom de cela, les pères de l'Église pratiquaient ce qu'on appelait la communication des idiomes. Un petit rappel que je fais, la communication des idiomes, ou si on veut, la communication des propriétés, c'est-à-dire qu'ils disaient, certes, c'est un homme qui a souffert et qui est mort sur la croix, mais puisque cet homme n'est autre que le Verbe de Dieu, alors nous pouvons attribuer au Verbe de Dieu lui-même, nous pouvons attribuer à la personne ou à l'hypostase du Verbe de Dieu, ce qui est ainsi enduré par la nature humaine de Jésus. Je ne fais que rappeler ce que nous avons vu précédemment. Donc si l'homme Jésus, si l'enfant Jésus est né de Marie, alors on a le droit de dire, puisque Jésus n'est autre que le Verbe de Dieu, on a le droit de dire que, il faut même dire que le Verbe de Dieu est né de Marie. Et par conséquent, il faut dire que Marie est mère de Dieu, Théotokos. De même, puisque l'homme Jésus est mort sur la croix et que cet homme Jésus n'est autre que le Verbe de Dieu, nous pouvons dire que le Verbe de Dieu lui-même est mort sur la croix. C'est ce qu'on appelle la communication des propriétés ou la communication des idiomes. On attribue à la personne du Verbe de Dieu ce qui est enduré par sa nature humaine. Et on peut faire cela, et on doit faire cela, selon les pères d'Église, précisément parce que la distinction n'est pas une séparation, et que les deux natures, si distinctes soient-elles, n'en sont pas moins unies dans l'unique personne ou l'unique hypostase du Verbe de Dieu. Ça va ? Vous me suivez ? Bon. Mais, à partir de là, les pères de l'Église s'arrêtaient. Il n'allait pas plus loin. Il disait, nous pouvons et nous devons attribuer au Verbe de Dieu la souffrance et la mort de Jésus, mais n'allons surtout pas dire que la nature divine a souffert. Vous vous rappelez, Cyril d'Alexandrie disait ça contre Nestorius. Donc, la communication des idiomes, ça veut dire, on peut et on doit attribuer les souffrances et la mort de l'homme Jésus à la personne du Verbe de Dieu, mais évidemment pas à la nature divine comme telle. Pourquoi ? Ben parce que la nature divine est immortelle. Ce serait absolument impensable de laisser entendre que Dieu même est mort, si on entendait par là la mort de la nature divine. puisque Dieu est éternel. Il est de toujours à toujours. Vous voyez le raisonnement des pères d'Église. À la fois, ils pratiquaient ce qu'on appelle la communication des idiomes, mais ils n'allaient pas au-delà. Il y avait une sorte de verrou. La question qui a été posée à l'époque moderne, en fait, elle a été posée à partir de Luther, déjà au XVIe siècle. Et surtout, la question s'est radicalisée dans le cadre de certaines théologies au XXe siècle, c'est de savoir si on peut aller plus loin ou non. On se trouve en effet en butte au dilemme suivant. Ou bien on reste fidèle au langage de la tradition, au langage habituel de la tradition, et on parle de deux natures distinctes. L'avantage, c'est que la nature divine est préservée. Hein? Certes, Jésus meurt sur la croix, certes, le Verbe de Dieu meurt sur la croix, mais la nature divine est sauve, si je puis dire, puisqu'il y a distinction des deux natures. C'est le grand avantage de cette christologie traditionnelle. L'inconvénient, c'est que on a du mal, du coup, à penser comment ce qui advient au Verbe de Dieu atteint de quelque manière Dieu le Père. Et le risque de la distinction des deux natures, ça serait à la limite de laisser entendre que le Père, de toute façon, il est complètement au-dessus de tout cela. Et qu'il n'est pas affecté, il n'est nullement affecté par ce qui advient au Verbe de Dieu sur la croix. Avantage, inconvénient. Ça, c'est le premier terme du dilemme. Mais second versant du dilemme, si inversement, comme on essaye davantage de le faire à partir de Luther au XVIe siècle, et de façon plus radicale au XIXe et au XXe siècle, si au contraire, on met l'accent sur l'histoire du Fils de Dieu, qui est allé jusqu'à connaître la mort sur la croix, et si on va jusqu'à dire, sur cette base, que Dieu même est atteint par la souffrance et par la mort de Jésus sur la croix, alors, avantage. Avantage, bien, c'est que on laisse entendre que Dieu est réellement atteint par ce qui advient à son Fils sur la croix, mais inconvénient terrible, terrible, c'est que, du coup, Dieu, le Père, risque d'être lui-même entraîné, en quelque sorte, dans la mort du Fils, et que, du coup, c'en est fait de la doctrine traditionnelle sur l'immutabilité de Dieu. Vous voyez les deux termes du dilemme. Alors, comment surmonter ce dilemme? Comment arriver à penser que la mort de Jésus atteint de quelque manière Dieu le Père dans son mystère le plus profond? Mais comment penser cela d'une façon qui ne mette pas en cause l'immutabilité de Dieu, son éternité? Vous voyez la question très radicale à laquelle nous sommes confrontés. Eh bien, il y a certainement un théologien contemporain qui a beaucoup aidé à surmonter ce dilemme. C'est de nouveau Moltmann. Dans ce fameux ouvrage, Le Dieu crucifié, dont la traduction française est parue au début des années 1970, en 1974, Jürgen Moltmann, justement, a montré de façon extrêmement intéressante et suggestive, même si là encore je me permettrai une petite critique à propos de deux ou trois formulations de Moltmann, mais pour l'essentiel je consonne bien avec son propos. Moltmann a montré de façon extrêmement profonde que ce dilemme que je viens d'évoquer peut être surmonté uniquement si on complète la distinction des deux natures par une considération de l'ordre de la théologie trinitaire. Considération de théologie trinitaire. Je vous lis un premier extrait de Moltmann qui va nous aider à comprendre cela. Donc c'est le texte que vous avez en bas de la première page. La mort de Jésus ne peut être comprise comme mort de Dieu. La mort de Jésus ne peut être comprise comme mort de Dieu. Alors, déjà je m'arrête ici, ça c'est le premier commentaire. Moltmann prend ici position contre certains courants qui, à son époque, voulaient tellement prendre acte de la répercussion de la mort de Jésus sur l'être même de Dieu, qu'ils en venaient à laisser entendre que Dieu même était mort à l'heure de la croix, le thème de la mort de Dieu. Voilà. Alors, Moltmann écarte tout de suite cette hypothèse. Il dit la mort de Jésus ne peut pas être comprise comme mort de Dieu, parce que si on dit ça, on dit quelque chose d'absolument terrible, absolument impensable. Donc, la mort de Jésus ne peut être comprise comme mort de Dieu, mais seulement comme mort en Dieu. La mort de Dieu ne peut servir de point de départ à la théologie chrétienne, encore que ce slogan comporte du vrai. Elle s'origine seulement à la mort de la croix en Dieu et à Dieu dans cette mort de Jésus. Si l'on parle ainsi, il est alors utile d'abandonner la notion de Dieu et, dans l'espace qui mérite d'être appelé Dieu, de parler des relations du Fils, du Père et de l'Esprit. Cette vie, qui porte en elle la mort de Jésus, fait alors apparaître qui est Dieu et ce que signifie sa divinité. Dans tout ce qui a été dit jusqu'ici de la manière spécifiquement chrétienne de comprendre le discours sur la mort de Dieu, il manque la plupart du temps une dimension, à savoir la dimension trinitaire. Dieu a étendu ses mains sur la croix pour embrasser les limites du globe terrestre, lit-on chez Cyrille de Jérusalem. C'est une expression symbolique. Elle invite à comprendre tout le globe terrestre, l'histoire de ses souffrances et de ses espérances, dans les bras étendus du crucifié, c'est-à-dire en Dieu. Au bois bienheureux, sur lequel Dieu a été étendu, ce symbole invite à comprendre le Christ suspendu à la croix comme le Dieu déployé en Trinité. Alors, je commente ce texte qui est assez dense. Moltmann commence donc par critiquer l'expression « mort de Dieu ». Et il propose une autre expression à la place. Il dit qu'il faut parler d'une mort en Dieu. Autrement dit, la mort de Jésus sur la croix est elle-même révélation d'une mort en Dieu. L'avantage de cette correction qui est apportée par Moltmann, c'est qu'elle permet justement de surmonter le dilemme que j'évoquais tout à l'heure. Cette expression « mort en Dieu » va plus loin que le langage traditionnel de la communication des idiomes. L'expression « mort en Dieu » ne signifie pas simplement que le Verbe de Dieu est mort sur la croix, mais elle signifie que cette mort du Verbe de Dieu sur la croix atteint de quelque façon l'être même de Dieu. De quelque façon, je dis bien. Il n'y a pas de mort de Dieu, c'est trop clair, mais il y a néanmoins ce que Moltmann appelle une mort en Dieu. Et en même temps, l'expression « mort en Dieu » évite de raisonner comme si Dieu était tout entier entraîné dans l'abîme de la mort, cette fameuse aporie, cette fameuse impasse dont je parlais tout à l'heure. Parce que, encore une fois, parler d'une mort de la nature divine, ou dire que Dieu est mort dans ce sens-là, eh bien, ce serait porter atteinte au principe même du réel. Ça serait porter atteinte à l'éternité de Dieu. L'issue de l'aporie, ou le dépassement de l'aporie, est donnée, selon Moltmann, par une considération trinitaire. C'est ce qu'il dit en haut de la page 2. Tout ce qui a été dit jusqu'ici de la manière spécifiquement chrétienne de comprendre le discours sur la mort de Dieu, dans tout cela, il manque la plupart du temps la dimension trinitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je donne tout de suite la réponse de Moltmann, mais on va le découvrir en écoutant Moltmann lui-même. Mais je résume d'emblée, si vous voulez, la position de Moltmann. Faire paraître ici une considération d'ordre trinitaire, c'est souligner que la passion du Verbe de Dieu sur la croix atteint de quelque façon l'être même de Dieu, non pas au sens où Dieu le Père subirait ce que subit son Fils, mais au sens où Dieu le Père souffre d'une autre manière que Dieu le Fils, mais néanmoins souffre. Voilà. Alors, nous allons voir cela de plus près en écoutant Moltmann lui-même. Donc, c'est le deuxième extrait que j'ai retenu. Moltmann, donc, comprend ce qui advient sur la croix comme un événement qui ne touche pas simplement l'homme Jésus, ni même seulement le Verbe de Dieu, selon la position traditionnelle de la communication des idiomes, mais Moltmann comprend ce qui advient à Jésus sur la croix comme un événement trinitaire. Je lis. Le Fils, en mourant, endure dans son amour l'abandon par le Père. Jésus se ressent, se perçoit comme étant abandonné par le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le Père endure dans son amour la douleur de la mort du Fils. Et on ne dit évidemment pas « le Père meurt », évidemment pas. On ne dit pas « Dieu meurt ». Mais on dit « Dieu, le Père, endure dans son amour la douleur de la mort du Fils ». Ce qui procède de cet événement entre le Père et le Fils doit alors être compris comme l'esprit du don du Père et du Fils, comme l'esprit qui produit l'amour dans les hommes abandonnés, comme l'esprit qui donne la vie aux morts. Et un peu plus loin, Moltmann récapitule sa pensée en disant « Nous avons interprété l'événement de la croix d'une manière trinitaire comme événement mettant deux personnes en relation et dans lequel ces personnes se constituent elles-mêmes les unes envers les autres dans leur relation même. Dans l'événement de la croix, nous n'avons pas seulement vu la passion d'une personne de la Trinité, comme si la Trinité existait préalablement comme telle dans la nature divine. Nous avons interprété la mort de Jésus non comme un événement divino-humain, mais comme un événement trinitaire entre le Fils et le Père. Dans la relation du Christ à son Père, il n'est pas question de sa divinité, ni de son humanité, ni de leur relation mutuelle, mais de l'aspect personnel, total, de la filiation de Jésus. Ce point de départ est nouveau par rapport à la tradition. Il surmonte la dichotomie entre la nature de Dieu et sa trinité interne. Il rend nécessaire la pensée en termes de trinité pour percevoir pleinement la croix du Christ. Donc, voyez comment Moltmann essaye de surmonter le dilemme dont je parlais tout à l'heure. Moltmann n'est pas satisfait, au fond, du langage traditionnel qui dit, bon, au plus, on peut attribuer la mort de Jésus au Verbe de Dieu, à la personne du Verbe de Dieu. Mais, sous-entendu, on ne peut pas en dire plus à propos du Père ou de l'Esprit. Donc, Moltmann n'est pas satisfait par ce langage parce qu'il dit, si on dit cela, alors on raisonne comme si l'épreuve de la passion et de la croix n'avait nullement atteint l'être profond de Dieu. Mais en même temps, il ne s'agit pas pour autant de laisser entendre que Dieu même est mort. Il ne s'agit pas de laisser entendre que la mort atteint l'être même de Dieu. Ça serait absolument impensable. Et c'est là que Moltmann dit, pour s'en sortir, il faut passer à une considération trinitaire. Il ne faut plus s'en tenir simplement au langage des deux natures, distinctes, bien qu'unies en une seule personne, mais il faut passer à une considération trinitaire et considérer que même si le Fils de Dieu est le seul à mourir sur la croix, le fait qu'il soit le seul à mourir sur la croix ne signifie pas pour autant que le Père lui-même ne souffre pas, mais évidemment d'une autre manière. Ce n'est pas parce que le Père ne souffre pas comme le Fils qu'il ne souffre pas. Vous voyez, c'est le déplacement trinitaire que Moltmann propose. Alors, j'annonçais qu'en même temps, je prendrais quand même distance par rapport à Moltmann à cause de deux ou trois formulations. Si vous voulez, pour l'essentiel, je crois qu'il a vu quelque chose de très juste, et d'ailleurs, il n'est pas le seul, hein, puisque l'année même où paraissait la traduction française du livre de Moltmann, Le Dieu crucifié, cette année même, 1974, est paru le livre du Père Varion, La souffrance de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'influence de l'un sur l'autre. Je ne pense pas qu'ils aient été au courant de leurs recherches respectives. Cette coïncidence est quand même frappante. Et Père Varillon, dans son livre La souffrance de Dieu, qui est un livre absolument magnifique, montre justement comment la croix du Christ révèle comment Dieu lui-même, jusque dans son mystère le plus profond, se trouve de quelque façon atteint par l'épreuve, mais évidemment d'une autre manière que le Fils. Voilà. Et puis, après Joseph Moin, d'autres théologiens comme Eberhard Hüngel ou Joseph Moin ont essayé aussi de développer la même idée. Donc, fondamentalement, je crois que Moltmann a vu quelque chose de très juste. Voilà. Il n'était pas tout à fait le premier non plus, hein, parce que, d'une part, je rappelle que parmi les pères de l'Église, il y avait eu quand même déjà quelques intuitions dans ce sens, Origène, hein, le Père lui-même n'est pas impassible. Et puis il y avait eu aussi une formule qui s'était imposée au concile de Constantinople II, l'un de la Trinité a souffert. C'est quand même un texte doctrinal qui nous vient d'un concile œcuménique du VIe siècle, l'un de la Trinité a souffert. Donc on voit bien, déjà les anciens avaient bien cette perception de retentissement de la passion du Christ dans l'être même de Dieu. Et puis, d'autre part, dans la théologie contemporaine elle-même, Moltmann n'est pas tout à fait le premier, en particulier, je le signale pour ceux que cela intéresse, il y avait eu une œuvre très peu connue en Occident, mais une œuvre d'un théologien japonais qui s'appelle Kitamori, qui était paru dans les années 1940, 1945, si je me souviens bien, sous le titre « Théologie de la douleur de Dieu ». Théologie de la douleur de Dieu. Et d'ailleurs, Moltmann cite une fois ou l'autre ce théologien japonais, Kitamori. Mais c'est quand même Moltmann qui certainement a le plus profondément, enfin, développé, qui était le premier, disons, à développer profondément et longuement cette réflexion sur le retentissement trinitaire de ce qui est advenu un jour du temps sur la croix. Voilà. Alors, je disais en même temps, tout en consonant pour l'essentiel à cette pensée de Moltmann, je crois nécessaire d'apporter deux ou trois correctifs, là encore, comme je l'ai fait tout à l'heure à propos de son interprétation de l'abandon de Jésus par Dieu. Le premier correctif, c'est à propos de ce qu'on lit à la sixième ligne de l'extrait que je viens de lire. Moltmann écrit « Nous avons interprété l'événement de la croix d'une manière trinitaire comme événement mettant deux personnes en relation. » Bon, jusque-là, pas de problème, sauf qu'on ne voit plus tellement où est l'esprit. Bon. Mais surtout, mon problème est lié aux quelques mots qui suivent. Un événement dans lequel ces personnes, le Père et le Fils, se constituent elles-mêmes les unes envers les autres dans leur relation même. Alors, c'est juste, et ça appelle en même temps un correctif. C'est juste de dire que les personnes de la Trinité se constituent elles-mêmes les unes envers les autres dans leur relation, mais le problème, c'est que si on la lit dans son contexte, l'expression pourrait laisser entendre que les personnes de la Trinité ne se sont vraiment constituées comme personnes de la Trinité qu'à l'heure de la croix, ce qui n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Jésus s'adresse bien à son Père dès avant l'heure de la croix. et l'Esprit est à l'œuvre bien avant l'heure de la croix. Hein. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une nouveauté de l'événement de la croix. Hein. Voilà. Il y a une intensité inouïe de cet événement de la croix. Hein. Et je crois qu'il faudrait apporter ici un petit correctif. Le second correctif qu'il faut émettre, c'est à propos de la phrase suivante. Dans l'événement de la croix, nous n'avons pas seulement vu la passion d'une personne de la Trinité, très bien, jusque-là, très très juste, mais attention à ce qui suit, nous n'avons pas seulement vu la passion d'une personne de la Trinité comme si la Trinité existait préalablement comme telle dans la nature divine. Mais donc là encore, Moltmann laisse entendre que la Trinité n'existait pas avant l'heure de la croix. Vous voyez, c'est une petite formule qui me semble devoir être corrigée. Voilà. Il reste que, mis à part ces deux réserves que je viens de formuler, enfin, Moltmann a certainement vu quelque chose de très juste. Je reviens un tout petit peu sur la première réserve que je formulais. On voit bien, si Moltmann dit que dans l'événement de la croix, les personnes de la Trinité se constituent elles-mêmes les unes envers les autres dans leur relation même, c'est parce qu'il a à cœur de mettre en évidence la nouveauté absolue de la croix dans l'histoire de l'humanité. Et de ce point de vue, il a raison. Il y a un événement sans précédent. Jamais auparavant, bien sûr, le Fils de Dieu n'était mort. Il y a bien une nouveauté absolument sans précédent de cet événement de la croix. Mais on ne peut penser cette nouveauté de l'événement de la croix qu'à condition de la mettre en relation avec l'éternité de Dieu. Certes, il s'est passé quelque chose de radicalement nouveau, mais ce qui est radicalement nouveau dans l'événement de la croix est advenu à quelqu'un qui existait déjà avant la croix. Et donc, la vraie question qui doit être posée, c'est plutôt, que doit être le Christ, que doit être le Fils de Dieu avant la croix, pour qu'il soit possible de lui reconnaître cette forme de nouveauté que signifie l'événement de la croix. Autrement dit, à la fois, il faut prendre en compte la nouveauté absolue de l'événement de la croix dans l'histoire de l'humanité, mais il faut penser cette nouveauté d'une manière qui n'abolisse pas ce que la confession de foi chrétienne dit à propos du Fils de Dieu préexistant. Il faut articuler cette nouveauté de l'événement historique de la croix avec l'éternité de Dieu. Comment le faire? On essaiera de s'engager sur cette voie difficile mardi prochain, quand on réfléchira sur la préexistence. Qu'est-ce qu'on entend par la préexistence du Fils? Vous voyez le problème, hein? Si on dit que c'est complètement nouveau, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquait au Fils de Dieu dans l'éternité. Mais inversement, si on dit que tout était donné dès l'origine, dans ce cas, on risque de ne pas assez prendre en compte la nouveauté de l'événement de la croix. Donc il faudra arriver à trouver un chemin qui permette d'articuler l'éternité, le point de vue de l'éternité, et le point de vue de l'événement historique dans son unicité. On ne s'en dit pas plus pour le moment, puisque c'est là, justement ce qui est en jeu à travers cela, c'est toute l'interprétation de ce qu'on appelle la préexistence du Fils. Mais quoi qu'il en soit de ce problème, je pense qu'on peut surtout retenir pour le moment, au fond, quelque chose de tout simple et en même temps d'une profondeur abyssale, à savoir que l'événement de la mort de Jésus sur la croix, non seulement c'est un événement qu'il faut attribuer au Verbe de Dieu lui-même, puisque selon la christologie la plus traditionnelle, ce qui advient à Jésus advient précisément au Verbe de Dieu. Jésus n'étant autre que le Verbe de Dieu fait chair. Mais il faut aller plus loin, à la suite de Moltmann, et reconnaître que ce qui advient à l'homme Jésus sur la croix retentit mystérieusement dans l'être même de Dieu, non pas encore une fois au sens où il faudrait parler d'une mort de Dieu, non pas au sens où le Père souffrirait de la même manière que le Fils, mais au sens où l'événement de la souffrance et de la mort du Fils sur la croix affecte mystérieusement Dieu dans son mystère le plus profond, le plus radical. Alors je voudrais terminer ce développement en citant un passage d'un poète français, Charles Péguy. Je ne vous ai pas donné ce texte, mais c'est un texte qui est assez connu. Il se trouve dans le porche du mystère de la deuxième vertu, cette grande méditation de Charles Péguy sur l'espérance. Et dans ce passage, le poète Charles Péguy, donc au début du XXe siècle, Charles Péguy a l'audace de faire parler Dieu. Voilà. Il fait comme si Dieu parlait à l'heure de la mort de Jésus. Disons, Dieu le Père rappelle au fond ce qui s'est passé lors de la mort de Jésus. Et il dit ceci. Mais surtout, nuit, il s'adresse à la nuit, tu me rappelles cette nuit. C'est Dieu le Père qui parle, hein, l'audace du poète. Hein. Tu me rappelles cette nuit et je me la rappellerai éternellement. La neuvième heure avait sonné. C'était dans le pays de mon peuple d'Israël. Tout était consommé, cette énorme aventure. Depuis la sixième heure, il y avait eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. Tout était consommé. Ne parlons plus de cela, ça me fait mal. Cette incroyable descente de mon fils parmi les hommes, chez les hommes, pour ce qu'ils en ont fait. Ces 30 ans qu'il fut charpentier chez les hommes. Ces 3 ans qu'il fut une sorte de prédicateur chez les hommes, un prêtre. Ces 3 jours où il fut une victime chez les hommes, parmi les hommes. Ces 3 nuits où il fut un mort chez les hommes, parmi les hommes morts. Ces siècles et ces siècles où il est une hostie chez les hommes. Tout était consommé. Cette incroyable aventure par laquelle moi, Dieu, j'ai les bras liés pour mon éternité. Cette aventure par laquelle mon Fils m'a lié les bras, pour éternellement liant les bras de ma justice, pour éternellement déliant les bras de ma miséricorde, et contre ma justice, inventant une justice même, une justice d'amour, une justice d'espérance. Tout était consommé, ce qu'il fallait, comme il avait fallu, comme mes prophètes l'avaient annoncé. Le voile du temple s'était déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre avait tremblé, des rochers s'étaient fondus, des sépulcres s'étaient ouverts et plusieurs corps des saints qui étaient morts étaient ressuscités. Et environ la neuvième heure, mon fils avait poussé le cri qui ne s'effacera point. Tout était consommé. Les soldats s'en étaient retournés dans leurs casernes, riant et plaisantant parce que c'était un service de fini, un tour de garde qui ne prendrait plus. Seul un centenier demeurait et quelques hommes, un tout petit poste pour garder ce gibet sans importance, la potence où mon fils pendait. Seules quelques femmes étaient demeurées, la mère était là, et peut-être aussi quelques disciples, et encore on n'en est pas bien sûr. Or, tout homme a le droit d'ensevelir son fils, tout homme sur terre s'il a ce grand malheur de ne pas être mort avant son fils, et moi seul, moi, Dieu, les bras liés par cette aventure, moi seul à cette minute, père après tant de pères, moi seul, je ne pouvais pas ensevelir mon fils. C'est alors, ô nuit, que tu vins, ô ma fille chère entre toutes, et je le vois encore et je verrai cela dans mon éternité, c'est alors, ô nuit, que tu vins, et dans un grand linceul, tu ensevelis le centenier et ses hommes romains, la Vierge et les saintes femmes, et cette montagne et cette vallée sur qui le soir descendait, et mon peuple d'Israël, et les pécheurs, et ensemble celui qui mourait, qui était mort pour eux, et les hommes de Joseph d'Arimathie qui déjà s'approchaient portant le linceul blanc. Alors, c'est un poète hein, qui s'exprime ainsi, mais ce qui est extraordinaire, c'est que son langage, enfin, le langage qu'il prête ici à Dieu le Père, est parfait, parfait. Parce que d'un côté, on voit bien qu'il n'y a pas séparation entre Dieu et l'homme, il n'y a pas séparation entre le Père et son Fils. Hein. Il dit « J'ai les bras liés par cette aventure pour éternellement ». Il n'y a pas de séparation. Hein. Ce qui advient de si tragique à son Fils sur la croix affecte Dieu le Père dans son être paternel. Et en même temps, il n'y a pas confusion. Le Père ne prend pas la place du Fils. Le Père ne souffre pas à la place du Fils, sans séparation ni confusion. Ça rappelle Calcédoine. Sans séparation ni confusion. Donc l'enjeu à travers ça, par la voix du poète, c'est de nous aider à comprendre ce que les théologiens ont eu parfois un peu plus de mal à comprendre. C'est que à la fois, il faut tenir un retentissement de la passion et de la mort de Jésus sur la croix dans l'être de Dieu, dans l'être le plus profond de Dieu, sans que ça autorise pour autant à raisonner comme si le Père souffrait à la place du Fils. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est le poète, là, Peggy, qui nous met sur la voie de ce qui peut être le véritable dépassement de l'aporie dont je parlais tout à l'heure. Mais voyez comment, à travers tout ce que je viens de dire là, on est vraiment dans l'ordre d'une réflexion théologique, au sens radical du mot. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus simplement, on ne réfléchit plus seulement sur la mort de l'homme Jésus, ni même seulement sur la mort du Verbe de Dieu, puisque Jésus n'est autre que le Verbe de Dieu, mais on réfléchit sur la façon dont l'événement dramatique, tragique de la mort du Verbe de Dieu sur la croix retentit mystérieusement dans l'être même d'un Dieu qui pourtant est éternel, est immuable. La souffrance de Dieu. Je ne peux que citer à nouveau le Père Varillon pour finir. Le concept d'un Dieu passible est peut-être un scandale pour la raison, mais la réalité d'un Dieu impassible révolte le cœur qui a ses raisons. Faisons la pause maintenant. Si vous voulez que je vous donne le texte de Peggy, je peux vous le photocopier. Je vous le donnerai la prochaine fois. Je ne savais pas trop si j'aurais le temps de le lire ou pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une question ou deux éventuellement sur ce que j'ai dit avant la pause ou est-ce qu'on... Oui. 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 Alors c'est Dieu, c'est la racine de El, voilà, c'est pas Père, hein, c'est racine de... c'est Eli, c'est mon Dieu, mot à mot, mon Dieu, hein, c'est le hébreu, c'est l'hébreu, c'est hébreu ou araméen, je sais pas trop, enfin, l'araméen étant un dialecte de l'hébreu, hein. C'est-à-dire... Oui, ben, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs noms hein, pour parler de Dieu. Il y a Shaddai, il y a Elohim, il y a... Hein, donc, Eli, El, c'est l'un des noms de Dieu. Et donc, c'est le mot, en tout cas, qui est employé par le psaume. Hein. Jésus ne fait que citer la parole du psaume, Eli, mon Dieu. El, c'est l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, en hébreu. Rien à voir avec le prophète Eli, contrairement à ce que... croyaient justement, d'après les évangiles, certaines personnes qui étaient là. Oui, tout à fait. Allah, c'est la même racine. Oui. L'esprit, selon la tradition, c'est le don, c'est l'amour. C'est ce lien même du Père au Fils, ce lien de la charité, ce lien de l'amour, comme disait saint Augustin. que le Père aime le Fils jusque dans cette heure, que le Fils aime le Père jusque dans cette heure, voilà, cet amour même, c'est l'Esprit précisément, c'est le don, le tiers. Ça, enfin, on pourrait en dire beaucoup plus là-dessus, mais enfin, si vous laissez un peu dans cette direction qu'on peut, me semble-t-il, chercher. Enfin, je reparlerai d'esprit à propos de la résurrection, en tout cas. Oui. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y aurait tout un développement à faire là-dessus, mais je pense que j'en parlerai dans 15 jours, quand je parlerai de la, non pas de la préexistence, mais de ce que j'appelle la post-existence. C'est-à-dire que devient le Fils depuis, pendant notre histoire même, dans notre histoire même. Ça, je crois tout à fait. Pardon ? Pardon ? Oui. Voilà, c'est là qu'il faut éviter, là j'ai répondu très, très rapidement pour l'esprit, bon, ce serait tout un développement spécifique pour l'esprit. L'esprit est à entendre d'abord comme Dieu même, en tant qu'il est le lien d'amour du Père et du Fils. Hein. Donc il ne faut pas le personnaliser, ce serait, si vous voyez, il ne faut pas projeter sur l'esprit la représentation que nous avons d'une personne humaine. On n'est pas dans cet ordre-là. Hein, mais voilà, la réalité du lien d'amour entre le Père et le Fils, ce lien réciproque, c'est la présence même de l'esprit. On aura l'occasion, je pense, de revenir là-dessus. Alors, ce sera notre chapitre. Ouais. Un tout petit mot sur l'expression du symbole des apôtres, qui ne se trouve pas dans le credo de Nicée-Constantinople, hein, dans le grand credo, mais qu'on trouve dans le symbole des apôtres. Il est descendu aux enfers. C'est une expression qui se fonde en particulier sur un passage, un verset de la première épître de Pierre, au chapitre 3, versets 18 à 20. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, où il est dit, à propos du Christ, bon, il est mort dans sa chair, mais rendu à vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé prêcher, même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, etc. Vous rappelez ce passage voilà. Alors, il y a aussi d'autres textes hein, du christianisme ancien enfin, qui témoignent de cette croyance. Cette affirmation qu'on trouve donc dans le symbole des apôtres, affirmation suffisamment importante pour qu'elle ait été retenue dans le symbole des apôtres, cette affirmation, il est descendu aux enfers, est à entendre comme une première expression de la victoire du Christ sur la mort. C'est-à-dire que la question à laquelle cette affirmation répond, c'est la question du salut de ceux qui sont depuis des siècles enfermés dans ce que les Hébreux appelaient le Sheol, ce qu'on traduit par les enfers. Il va soi qu'il est descendu aux enfers. Les enfers, ça n'a rien à voir avec l'enfer. C'est les enfers, c'est la traduction française du mot hébreu Sheol, le Sheol, c'est-à-dire ce séjour dans lequel les morts attendaient le jour du jugement, selon la croyance vétérotestamentaire. Voilà. Alors, on dit Jésus est mort sur la croix. Ensuite, on va dire il est ressuscité. Il est ressuscité, alors pour ceux qui sont vivants et pour ceux qui viendront après lui, mais ceux des siècles anciens, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, c'est à cette question que l'affirmation du symbole, il est descendu aux enfers, entend précisément répondre. À travers cela, ce qui est dit, c'est au fond l'universalité de l'offre du salut. Ouais. Le Christ est mort pour tous, hein, y compris donc pour ceux des siècles anciens qui n'avaient pas pu le connaître. Hein. C'est une très belle idée, hein, cette idée de l'universalité de l'offre du salut, qui s'étend même à ceux qui sont dans l'ombre de la mort, comme il est dit dans le cantique de Zacharie, hein, pour illuminer ceux qui habitent l'ombre de la mort. Hein. C'est ça qui est dit là. La théologie orthodoxe a été extrêmement sensible, hein, à l'importance de cette formule « Il est descendu aux enfers ». Et vous avez des icônes, hein, qui présentent le Christ justement venant visiter les enfers. On a gardé une homélie aussi, une homélie attribuée à Épiphane, mais enfin on ne sait pas bien l'auteur, une homélie sans doute du 5e siècle qu'on lit le Samedi Saint. C'est un texte qui est proposé à la lecture dans le cadre de l'office des lectures du Samedi Saint. C'est un texte qui est aussi audacieux que celui de Peggy que je disais tout à l'heure, parce que il fait parler le Christ, non pas Dieu le Père, mais le Christ, donc presque aussi audacieux, on peut dire. Et il dit, voilà, c'est le Christ qui parle, hein, et il dit, je suis descendu aux enfers, et alors j'ai rencontré Adam, puis j'ai rencontré Abel, puis j'ai rencontré, alors ils m'ont dit, ils m'ont salué, etc. Enfin, il y a un dialogue imaginé entre les personnages nombreux qui peuplent les enfers, et puis le Christ qui vient à leur rencontre en étant déjà victorieux de la mort. Voilà. Donc c'est ça que signifie, hein, cette affirmation « Il est descendu aux enfers ». Pas représenté, bien sûr, absolument au-delà de toute représentation, mais ce qui est important, c'est d'entendre ce qui est dit à travers cette expression, hein, cette affirmation, c'est donc l'universalité de l'offre du salut. Et donc, en quelque sorte, déjà, une première expression de ce qui va être la résurrection, de ce qui va être la victoire sur la mort, signifiée par la résurrection. Donc ceci m'introduit à la dernière étape de notre parcours aujourd'hui, autour de la résurrection. Dieu l'a ressuscité. Alors, première réflexion à ce sujet, quelques mots sur le langage même de la résurrection. Ce que l'on constate, c'est que l'Écriture, avant tout le Nouveau Testament ici, fait appel à des images ou à des métaphores pour parler de ce que nous appelons la résurrection. On ne le réalise pas toujours, parce que pour nous, la résurrection, c'est un concept. La résurrection, comme l'incarnation. Mais au point de départ, le concept n'existait pas. Au point de départ, ce qui existait, c'était des verbes. Hein. Principalement, deux verbes. D'une part, le verbe « se lever », hein, « anistanai » en grec, hein, « se lever ». Voilà. Donc quelqu'un, l'image, hein, c'est l'image de quelqu'un qui est couché et qui se lève. Donc il est couché, alors là c'est au sens du sommeil de la mort, et voici que Dieu le relève du sommeil, enfin Dieu le relève de cette position couchée, il est de nouveau debout. Voilà. En parenthèse, les évangiles vont souvent projeter, hein, ce terme « se lever » sur des récits de guérison de la période pré-pascale, hein, quand Jésus dit « lève-toi, hein, lève-toi ». Prends ton brancard et marche. C'est déjà une expression anticipée de la résurrection. C'est une manière de dire que cette guérison du paralytique est comme un symbole de la résurrection à laquelle il est un jour promis. Voilà. Donc ça, c'est une première image, l'image de se lever. On était couché, on se lève. Et puis, autre image très très importante, l'image du réveil. Donc là, c'est l'image de quelqu'un qui dormait et qui est éveillé. Hein. Éveille-toi, ô toi qui dors. Hein. On a ça dans l'Épître aux Éphésiens. Bon, il y a d'autres images aussi. Par exemple, l'image de l'exaltation. On trouve ça dans l'épître aux Philippiens, dans l'hymne de l'épître aux Philippiens. Le Fils s'est anéanti, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Aussi, Dieu l'a-t-il exalté. C'est encore un autre verbe. Et puis, on pourrait ajouter d'autres images encore, y compris l'image toute simple de la vie. Quelqu'un était mort, il est vivant. Voilà. Mais peut-être, faut-il souligner surtout les deux premières images que j'évoquais, ce que sont des images plus concrètes que celles de la vie. Donc l'image de quelqu'un qui était couché et qui est à nouveau debout, ou l'image de quelqu'un qui dormait et qui est de nouveau éveillé. Et c'est seulement ensuite, dans un temps second, qu'est venu le concept résurrection, formé sur le verbe anisthémie, résurrection est forgé sur le terme latin, qui traduit le grec se lever. Voilà. Donc des expressions métaphoriques, des images. Et on comprend pourquoi. Puisque la résurrection, c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Sans précédent. On n'avait jamais dit auparavant de quelqu'un qui fut ressuscité dans l'histoire de l'humanité. Bon, il y avait bien des traditions, des légendes au sujet de certaines divinités qui avaient fait un tour sur Terre et puis qui étaient reparties dans l'Olympe. Mais c'est différent. Quant au Bouddha, c'est différent. Le Bouddha, c'est l'éveil, l'entrée dans le nirvana. Mais on n'a jamais dit de Gautama qu'il était ressuscité, au sens où on le dit à propos de Jésus. Donc il y a quelque chose d'absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et comme c'est sans précédent, il n'y a pas de concept qui existe d'emblée. Alors comment les auteurs du Nouveau Testament ont-ils fait pour dire quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité ? Eh bien, il se trouve que déjà dans les 3 ou 4 siècles précédant la venue du Christ, s'était fait jour l'espérance, eh bien, de ce que nous appelons la résurrection. On a ça dans le livre de Daniel, par exemple, dans la littérature apocalyptique, les derniers siècles précédant la venue du Christ. Dans une époque spécialement où les sages d'Israël constataient que des justes subissaient un sort injuste. Vous vous rappelez le livre de la sagesse dans ses premiers chapitres, ou bien un peu plus anciennement le livre des martyrs d'Israël. Des hommes justes qui subissent un sort injuste. Et c'est face à ce scandale que justement des sages d'Israël avaient vu naître en eux l'espérance de ce que nous appelons la résurrection. Et pour cela, ils avaient déjà recouru à cette image, quelqu'un qui était mort et qui est éveillé, quelqu'un qui était couché et qui est à nouveau debout. Et donc, les premiers chrétiens reprennent ce vocabulaire pour l'appliquer à l'événement de Jésus. Mais là, il ne s'agit plus d'une attente, il s'agit désormais de quelque chose qui est arrivé. Ce qui était espéré par les sages d'Israël, ce qui était espéré à travers un certain nombre de courants du judaïsme, notamment dans la tradition apocalyptique, eh bien, cela vient de se produire. Voilà. En deuxième point, toujours à propos de la résurrection, quelques mots sur l'historicité. Que peut-on dire sur l'historicité de la résurrection ? Tout à l'heure, à propos de la mort du Christ, je me suis beaucoup référé à un ouvrage de Jürgen Moltmann. À propos de la résurrection, je m'appuie surtout sur un autre théologien protestant, lui aussi, Wolfhard Pannenberg. Pannenberg, qui a beaucoup réfléchi sur cette question de la résurrection, et en particulier dans un ouvrage intitulé « Esquisse d'une christologie ». Je vous en ai donné la référence, d'ailleurs, à la page 3 du plan. Un ouvrage qui est paru en traduction française en 1971, mais depuis, Pannenberg a écrit d'autres ouvrages dans lesquels il reprend les mêmes thèses, il les développe encore. Et Pannenberg a été notamment connu dans son ouvrage « Esquisse d'une Christologie » pour sa déclaration suivant laquelle il est possible de prouver historiquement la résurrection de Jésus. Pannenberg a voulu ainsi réagir contre certains courants qui avaient eu cours dans la théologie protestante du XXe siècle. Si vous voulez, certains théologiens en étaient venus à dire que bon, la résurrection, c'était simplement une expérience intérieure que les disciples avaient vécue et dont ils avaient rendu compte à travers le langage de la résurrection. Mais Pannenberg réagit contre ces courants qui lui semblent sans fondement et du coup, il les prend presque à contre-pied et il dit en réalité, il faut tenir non seulement que la résurrection est un événement réel dans l'histoire de l'humanité, mais qu'il est possible de la prouver historiquement. Alors, on lui a adressé un certain nombre d'objections, on lui dit, enfin, c'est pas possible de prouver la résurrection, mais Pannenberg s'est défendu. Alors, en fait, il faut comprendre exactement ce qu'il veut dire par là. L'enjeu de l'affirmation de Pannenberg, c'est en fait de prendre au sérieux l'historicité de l'événement. Il ne s'agit évidemment pas de laisser entendre que la résurrection serait un événement comparable aux autres événements de l'histoire humaine. La résurrection, précisément parce qu'elle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, parce qu'elle est, elle est ce qui est advenu au Christ à travers le passage par la mort, la résurrection ne saurait être prouvée au même titre qu'on peut prouver d'autres faits historiques. C'est trop clair. Mais néanmoins, Pannenberg maintient avec beaucoup de force, et il a parfaitement raison au vu des affirmations du Nouveau Testament, il maintient avec force que les premiers chrétiens parlent de la résurrection comme de quelque chose qui s'est passé historiquement. Quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit, un événement. Alors, quand on parle ainsi de la résurrection comme événement historique, il faut apporter un certain nombre de précisions. D'ailleurs, Pannenberg lui-même les apporte en partie. La première précision, vous avez ça sur le plan, je les ai résumés, cette précision. Première précision, c'est que l'événement dont il s'agit déborde l'histoire dans laquelle il est advenu. L'événement dont il s'agit déborde l'histoire dans laquelle il est advenu. Et donc l'événement de la résurrection, même s'il s'agit vraiment d'un événement advenu dans notre histoire, ne peut pas être prouvé au même titre que certains faits historiques. L'événement ne peut pas être prouvé au même titre que n'importe quel événement historique. Par contre, il peut être attesté. Et de fait, il a été attesté. Nous avons des témoins des apparitions. Je vais y revenir. Alors, Pannenberg, dans son argumentation sur l'historicité de la résurrection, fait remarquer quelque chose de très juste, tout simple. Il dit, l'histoire elle-même, lorsqu'elle essaye de parler d'un grand personnage historique, comme par exemple Saint-Louis, est obligée de se fonder sur des témoignages qu'elle ne peut pas vérifier directement. L'historien contemporain parle avec un recul de 13 siècles dans le cas de Saint-Louis, et donc il est obligé lui-même de se fonder sur la parole d'un certain nombre de témoins. Alors il y a des archives, il y a des documents, enfin, encore faut-il y croire. Bon, et parfois, il y a des discussions. Est-ce que ce témoignage est authentique ou pas? C'est tout le travail de l'historien, d'arriver à démêler ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Donc, Pannenberg fait remarquer que quand on dit que la résurrection peut être prouvée historiquement, il ne laisse pas entendre que cette preuve puisse advenir sans témoignage. Il dit, ça vaut déjà pour l'histoire profane. L'historien, quel que soit son objet, s'y traite d'un personnage passé, ne peut pas ne pas faire confiance à des témoins. Et donc, Pannenberg dit, à plus forte raison, en va-t-il ainsi, dans le cas de la résurrection du Christ. L'événement ne peut pas être prouvé au sens d'une preuve mathématique, si vous voulez, et en même temps, il est réellement attesté, et le croyant, les croyants au sein de la communauté chrétienne sont ceux précisément qui font confiance au témoignage qui a été rendu d'abord par les témoins, par les apôtres, à propos de la résurrection du Fils. Donc ça, c'est la première précision. Un événement qui déborde l'histoire, la résurrection, un événement qui déborde l'histoire et qui ne peut pas être prouvé au même titre qu'un autre événement historique, mais encore une fois, même dans le cas d'un événement historique profane, on a toujours besoin de faire confiance à des témoins. Et donc, à plus forte raison, est-ce vrai dans le cas de la résurrection? Deuxième précision qu'il faut apporter, c'est qu'il ne faut pas mettre sur le même plan l'événement de la résurrection, le tombeau vide et les apparitions. Tout ça est important. Tout ça est important. Et on ne peut pas parler de la résurrection si on fait abstraction de ce qui est dit sur le tombeau vide et de ce qui est dit sur les apparitions. Et en même temps, tout ça doit être distingué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je m'appuie beaucoup, là encore, sur Pannenberg. Ce que je veux dire par là, c'est que l'événement fondamental, c'est évidemment la résurrection comme telle. Mais la résurrection, les premiers chrétiens y ont accès par l'intermédiaire, si je peux dire, de ce témoignage qu'il aurait donné à travers les apparitions, d'une part, et d'autre part, à travers le tombeau vide. Voilà. Bien plus, il faut faire une distinction entre le tombeau vide et les apparitions. Le tombeau vide est de l'ordre d'un fait historique. Un fait historique. Car tout le monde pouvait constater que le tombeau était vide. D'ailleurs, les soldats se sont affolés. Quand ils ont vu que le tombeau était vide, et donc ils sont, vous reconnaissez, vous vous rappelez la finale de l'évangile de Matthieu, ils sont allés trouver le grand prêtre, voilà. Tout le monde pouvait voir le tombeau vide. De soi, le tombeau vide ne suffisait pas à être une preuve de la résurrection. Moi, j'aime bien dire ceci, en même temps, s'il y a eu résurrection, il y a eu nécessairement tombeau vide. S'il y a eu résurrection du Christ, il y a eu nécessairement tombeau vide. S'il y a tombeau vide, il n'y a pas nécessairement résurrection. C'est dans ce sens que ça joue. Mais s'il y a eu résurrection du Christ, il y a bien eu tombeau vide. Voilà. Donc, le tombeau vide, l'une de ses caractéristiques, si vous voulez, c'est que tout le monde pouvait le voir. Tout le monde pouvait constater qu'il était vide, mais de soi, ça ne suffisait pas à susciter la foi. La preuve, c'est que certains ont vu le tombeau vide sans pour autant croire. Pour d'autres, par contre, croyants, le tombeau vide a été le signe en creux, si je puis dire, c'est le cas de le dire, le signe négatif de la résurrection. Voilà. Alors, avec les apparitions, c'est encore un autre cas de figure. Les apparitions ne doivent pas être considérées comme un témoignage du même type que le tombeau vide. Le tombeau vide, encore une fois, c'est un témoignage négatif, un signe seulement négatif de la résurrection. Tandis que les apparitions, elles, c'est beaucoup plus positif. À travers les apparitions, c'est le Christ lui-même qui se donne à connaître, ou plutôt à reconnaître. Alors, là encore, il ne s'agit pas d'identifier les apparitions du ressuscité avec l'événement de la résurrection comme tel. Les apparitions viennent après, en quelque sorte. Les apparitions viennent après l'instant de la résurrection, que nous ignorons, bien sûr. Bon, les Écritures disent le troisième jour, mais c'est la reprise d'un langage symbolique qu'on trouvait dans le prophète Osée. Les apparitions ne doivent donc pas être mises sur le même plan que l'événement fondamental de la résurrection, et en même temps, elles représentent un témoignage tout à fait majeur. On ne peut pas nier que des femmes et des hommes, je commence par les femmes, elles ont été les premières, semble-t-il, d'après les récits évangéliques, on ne peut pas nier que des femmes et des hommes témoignent que le Christ leur est apparu vivant, par-delà la mort, ressuscité par-delà la mort. Et le sens de ces apparitions c'est d'être avant tout des confirmations. Les apparitions elles-mêmes ne peuvent pas être considérées comme des preuves au sens, je dirais, courant de l'expression preuve, tout simplement pour la raison qu'elles appellent elles-mêmes un acte de foi. C'est très net, à contrario, dans l'évangile de Marc. Parce que la finale de l'évangile de Marc, il est dit, bon, le ressuscité apparu, mais ils ne le crurent pas. Et on a ça aussi chez Matthieu, chez Luc. Il ne suffit pas que le Christ apparaisse pour qu'on croie en lui. C'est très curieux. Alors, il y a quand même des cas où, enfin, quand même, il y a Paul sur le chemin de Damas. C'est-à-dire, on a l'impression que là, l'apparition du ressuscité s'impose à Paul. Mais le plus souvent, enfin, les évangiles, enfin, souvent en tout cas, les évangiles laissent entendre, qu'il y a une place pour la foi, que l'apparition, en quelque sorte, ne s'impose pas d'une manière qui dispenserait les croyants d'un acte de foi. Mais en même temps, enfin, si les croyants sont disponibles et accueillants à ce qui leur est ainsi donné de voir, alors l'apparition ou les apparitions du ressuscité sont pour eux des confirmations fondamentales. Et surtout, le sens profond de ces apparitions du ressuscité, c'est de manifester aux yeux de ceux qui en sont témoins l'identité du Christ ressuscité et du Jésus prépascal. L'identité du Christ ressuscité et du Jésus prépascal. Jésus se fait reconnaître. Il se fait reconnaître comme le même que celui qu'on avait connu sur les routes de Palestine. Ça, c'est le sens profond des apparitions. L'identité du Christ ressuscité et du Jésus prépascal. Voilà, donc ça, je crois que c'est un ensemble de précisions tout à fait importantes. Donc, la troisième précision, c'est donc faire place à l'expérience de la foi au ressuscité. C'est frappant de voir que, alors que le tombeau vide pouvait être constaté par tous, les apparitions, en général, sont réservées aux croyants. Pas toujours, puisqu'encore une fois, il y a le cas de Saul sur le chemin de Damas. Ressuscité se révèle à qui il veut, mais c'est vrai que le plus souvent, le ressuscité apparaît aux croyants, c'est-à-dire à ceux qui l'ont connu avant sa passion et auxquels il apparaît de nouveau, manifestant ainsi qu'il est bien le même par-delà l'interruption de la mort, le sens profond des apparitions. Alors ceci me conduit à dire un petit mot sur un problème qui a été souvent agité dans le cadre de la théologie du XXe siècle, le problème de la relation entre le Christ ressuscité et le Jésus prépascal. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre plutôt l'accent sur la continuité ou l'accent sur la discontinuité? Alors, Pannenberg a eu sur ce point une thèse assez radicale, comme vous pouvez le voir sur la feuille. Cette thèse, il l'a formulée ainsi. L'unité de Jésus avec Dieu n'est pas encore fondée par la prétention impliquée dans son comportement prépascal, mais seulement par sa résurrection. La résurrection est confirmation de la revendication d'autorité du Jésus prépascal. Donc l'idée de Pannenberg, c'est que avant Pâques, il n'était pas possible vraiment de s'élever à la reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu. Et que c'est seulement avec la résurrection que les premiers témoins ont eu l'évidence de cette identité de Jésus et du Fils de Dieu. Alors, Pannenberg, pour dire cela, fait appel à un mot de la grammaire, la prolepse. Prolepse, c'est un mot technique de la grammaire. La prolepse, ça veut dire une anticipation. Par exemple, au lieu de dire le cours de demain Le cours aura lieu demain à 14h30, c'est pas vrai, hein. Enfin, c'est un exemple que je prends. Au lieu de dire le cours aura lieu demain à 14h30, ben, il aura lieu demain à 14h30, le cours de demain. Voilà, c'est une anticipation, on anticipe. Là, voilà. Alors, Pannonberg reprend ce langage technique pour dire qu'il y avait, avant la passion et la mort du Christ, une anticipation de sa révélation, une prolepse, hein, une anticipation de la révélation de Jésus comme fils de Dieu. Mais que c'est seulement avec la résurrection qu'a été donnée l'évidence de son identité avec le fils de Dieu. Et puis, Pannonberg va plus loin, puisqu'il poursuit en disant que la résurrection de Jésus elle-même est une anticipation de la résurrection à la fin des temps, la résurrection générale à la fin des temps. Et que seule cette résurrection générale à la fin des temps sera la confirmation décisive de la résurrection de Jésus. Voilà un peu le, voilà, si vous voulez, là, en résumé, la thèse de Pannonberg. Alors, dans cette thèse, il y a beaucoup de vrai, mais je la nuancerai quand même un petit peu. Il y a beaucoup de vrai au sens où, comme je l'ai dit l'autre jour, même si Simon-Pierre est allé le plus loin possible dans la reconnaissance de Jésus comme Christ, dès avant Pâques, même si le centurion romain est allé jusqu'à confesser Jésus comme fils de Dieu, en même temps, c'est seulement à la lumière de Pâques que les premiers chrétiens ont été pleinement ouverts à la révélation de Jésus comme Seigneur et fils de Dieu. Donc c'est la part de vérité, si vous voulez, dans la grande part de vérité dans la thèse de Pannonberg. Simplement, je nuancerai un peu la thèse de Pannonberg. Comme je l'ai écrit sur la feuille, il faut cependant souligner que l'unité de Jésus avec Dieu, même si elle a été définitivement confirmée par sa résurrection, cette unité était déjà donnée avant Pâques et qu'elle pouvait être déjà, au moins jusqu'à un certain point, reconnue avant Pâques. Quoi qu'il en soit de ce débat qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 60-70, mais qui est un peu dépassé maintenant, un certain consensus sur ce sujet, le plus important, c'est, au fond, d'essayer de dire, autant que faire se peut, le sens profond de cet événement advenu à Jésus. Jésus ressuscité, le sens de la résurrection. Alors, la première chose qu'il faut souligner, c'est que cet événement de la résurrection est présenté dans les évangiles comme relevant d'une initiative de Dieu. Initiative de Dieu. Ça ressort de la forme même de l'annonce, de la première annonce. Je pense surtout aux déclarations que l'on trouve plusieurs fois dans les Actes des Apôtres. Ce Jésus que vous aviez crucifié, Dieu l'a ressuscité. On voit bien que c'est Dieu qui est sujet. C'est une initiative de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui s'est ressuscité lui-même. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Alors, Dieu dans quel sens? Dieu, le Père. Presque toujours dans le Nouveau Testament, quand il est question de Dieu, il s'agit du Père. Sauf à quelques exemples. Quelques endroits. Donc, ce Jésus que vous aviez crucifié, Dieu l'a ressuscité, c'est une formule, la formule, l'une des formules les plus anciennes, justement, qui témoigne de la résurrection. C'est une formule qui met fortement en évidence l'initiative de Dieu, le Père. Voilà. C'est pas Jésus qui pouvait se ressusciter lui-même, mais Dieu, le Père, l'a ressuscité. Initiative de Dieu. Alors, considération trinitaire, comme le faisait Moltmann, moi aussi je voudrais faire appel à une considération trinitaire à propos de la résurrection. Comment Dieu le Père a-t-il ressuscité Jésus? Dans l'Esprit, par l'Esprit. L'Esprit qui donne vie. L'Esprit qui donne vie, c'est une... un attribut de l'Esprit à travers toute l'Écriture, l'Esprit qui donne la vie. Voilà. présence, action de l'esprit, l'esprit vivificateur, l'esprit qui donne la vie. Dans le cas présent, l'esprit qui donne la vie par-delà la mort. Donc, le sens de la résurrection, c'est d'être... C'est une initiative de Dieu qui donne, de Dieu le Père, qui, dans l'esprit, par l'esprit, donne à son Fils d'être réveillé du sommeil de la mort ou de se lever après avoir été couché dans la sépulture, le tombeau. Donne à son Fils de vivre au-delà de la mort. Autrement dit, le sens fondamental de la résurrection du Christ, c'est celui-ci. Il est vivant. Vous me direz que c'est un petit peu simple comme traduction. Mais si nous pesons le sens de ces mots, il est vivant. Il est vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, il est vivant à jamais. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, la résurrection du Christ, ce n'est pas une résurrection pour un temps. C'est l'affirmation suivant laquelle cet homme qui était cloué sur la croix, Dieu lui a donné la vie pour toujours. Pour le dire d'une autre façon encore, il ne s'agit pas d'une simple réanimation du corps de Jésus. Dans les évangiles, on a quelques exemples de qu'on appelle les résurrections. La résurrection du fils de la veuve de Naïn, résurrection la fille de Jaïr, etc. Bien sûr, la résurrection de Lazare. Voilà, c'est trois exemples dans les évangiles. On emploie légitimement ces mots résurrection, parce qu'on y voit des symboles de la résurrection à venir. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit en fait de réanimation. Des hommes, des femmes sont rendus à la vie. Évidemment, une vie qui elle-même demeure sujette à l'échéance de la mort. Tandis que dans le cas de la résurrection de Jésus, ça signifie il est vivant à jamais. Il est vivant à jamais. Donc, il est vivant, ça veut dire, premièrement, il est vivant à jamais. Et ça veut dire, deuxièmement, c'est lui qui est ainsi vivant. Et pas un autre. C'est lui. Et c'est là tout le sens si important des apparitions de ressuscité. C'est lui qui est vivant, c'est-à-dire le même qu'on a vu sur les routes de Galilée, sur les routes de Judée. Et les récits d'apparition, en particulier dans l'évangile de Luc, ont précisément pour fonction de souligner cette identité. Cette identité, c'est un seul et le même qu'on a connu antérieurement à sa mort sur la croix et qui est de nouveau vivant à jamais. Et on peut dire que c'est vraiment là la nouveauté absolue dont est porteur le message chrétien, la résurrection d'un homme que l'on avait vu mort sur une croix. Alors, on peut tenter de s'interroger plus avant sur cette vie à laquelle accède le Christ par-delà sa mort. Dans l'histoire, et spécialement au Moyen-Âge et à l'époque moderne, on s'est beaucoup intéressé à la question du corps ressuscité de Jésus. Il y a eu des tas de spéculations, plus ou moins abracadabrantes, d'ailleurs, imaginaires, sur le corps ressuscité. Il faut en réalité, si on essaye d'aller un peu à l'essentiel, si vous voulez, de ce que livrent les témoignages du Nouveau Testament, il faut en réalité envisager le corps du ressuscité comme l'expression ou la manifestation de ce qui est donné, de ce qui lui est donné par le Père dans l'Esprit. Et au fond, une manière de rendre compte de la résurrection du Christ jusque dans sa chair, résurrection de la chair, c'est une formule de ce type, tel il était pour les siens, tel il leur apparaît. C'est bien ce qui ressort en particulier du chapitre 24 de l'évangile de Luc. Voilà. Tel il était pour les siens, tel il leur apparaît. Ça veut dire que le Christ relevé d'entre les morts, réveillé du sommeil des morts, le Christ est affranchi de la limite inhérente à la temporalité et qu'en même temps, il demeure le même que celui qu'il était avec ses disciples avant Pâques. C'est le paradoxe de la résurrection. Il est affranchi de la limite inhérente à la temporalité, puisqu'il est vivant à jamais, et il n'en est pas moins le même que celui qu'il était avec ses disciples avant Pâques. On pourrait dire de ce point de vue-là que son passé et son présent se trouvent rassemblés, réunis. Ceci est difficile à comprendre. Aussi, comme je l'ai fait à propos de la mort en citant un poème de Peggy, je voudrais de nouveau faire appel à la littérature, seconde fois aujourd'hui. Mais cette fois, ce n'est pas Peggy, c'est Marcel Proust. La recherche du temps perdu, voilà, qui indirectement peut nous aider, nous mettre un peu sur le chemin, essayer d'entendre ce qui est en cause à travers cette résurrection du Christ apparaissant aux siens par-delà la mort. Proust raconte dans le dernier volume de La recherche du temps perdu, volume qui s'intitule « Le temps retrouvé », il raconte que tout d'un coup, en entendant un bruit, le bruit, le son, il faudrait plutôt un son particulier, il se remémore, enfin lui revient, présent à l'esprit, ce qu'il avait éprouvé un certain temps auparavant en se promenant à Venise sur les pas des pavés d'une cour, d'une place de Venise. Et également, c'est surtout ça qui est connu, il se rappelle la tasse de thé, la madeleine, le biscuit qu'il prenait dans une tasse de thé, et le tintement de la cuillère sur la tasse de thé. Voilà. Et à travers ça, il y a tout le passé qui redevient présent à lui. Voilà, le temps retrouvé. Et alors, je vous lis quelques lignes de Marcel Proust qui sont assez étonnantes. Il dit ceci, au moment où il réfléchit sur cette sorte de résurrection du passé qui s'est imposée à lui au moment où il a revu, où il s'est revu en train de boire son thé avec la madeleine et le tintement de la cuillère. Il dit ceci, l'être qui était rené en moi, il emploie le mot rené, il ne dit pas ressuscité, il dit rené. L'être qui était rené en moi, quand avec un tel frémissement de bonheur, j'avais entendu le bruit commun à la fois à la cuillère qui touche l'assiette et au marteau qui frappe sur la roue, à l'inégalité pour les pas des pavés de la cour Guermantes et du baptistère de Saint-Marc, etc. Cet être-là, qui était rené en moi, ne se nourrit que de l'essence des choses. En elle seulement, il trouve sa subsistance, ses délices. Il languit dans l'observation du présent où les sens ne peuvent la lui apporter. Il languit dans la considération d'un passé que l'intelligence lui dessèche, dans l'attente d'un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé auxquels elle retire encore de la réalité en ne conservant d'eux que ce qui convient à la fin utilitaire étroitement humaine qu'elle leur assigne. Mais qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendu ou respiré jadis, le soit de nouveau. Bon, c'est une expérience qu'on a tous faite. Donc, qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendu ou respiré jadis, le soit de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réel sans être actuel, idéaux sans être abstrait, aussitôt, l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi, qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Et celui-là, On comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'est pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir ? Au fond, un moment d'éternité. Seulement le problème, c'est que dans l'expérience évoquée par Marcel Proust, le moment d'éternité qui est ainsi vécu par l'être humain, au sens où tout d'un coup revient à sa mémoire un élément de son passé, le problème c'est que ce moment d'éternité n'empêche pas l'être humain de rester soumis au temps, le temps qui continue de s'écouler inexorablement. Tandis que, mais vous avez bien senti qu'il y avait quand même une présence du langage de la résurrection dans le texte de Proust, et on voit bien que ce n'est qu'une analogie. Dans le cas de la résurrection du Christ, on est en présence d'un corps, le corps du Christ ressuscité, qui est désormais affranchi de cette limite inhérente à la temporalité. Alors, le Christ ressuscité a la possibilité de se faire connaître, reconnaître dans le temps des hommes, et c'est justement ce dont témoignent les récits d'apparition. Mais, comme tel, le Christ ressuscité n'est plus soumis à la loi de la temporalité. Voilà la différence avec le narrateur dans le roman de Proust. Dans le cas du Christ, le temps n'est pas seulement le temps retrouvé. Il s'agit plutôt d'une résurrection. Et ça veut dire que pour le Christ ressuscité, il n'y a pas simplement des moments d'éternité, comme on peut en faire parfois l'expérience dans les meilleurs des cas, mais que le Christ ressuscité rassemble en lui-même, dans la plénitude de son être, celui-là même qu'il fut avant sa mort et celui-là même qu'il est maintenant. Ou pour le dire autrement, si vous voulez, le Christ ressuscité en sa chair, résurrection de la chair, le Christ est identique à lui-même malgré la succession des temps. Et qui plus est, malgré l'interruption dramatique de la mort. Le Christ ressuscité est totalement identique à ce qu'il fut dans le passé de sa vie parmi les hommes, et il est non moins identique à ce qu'il sera dans l'avenir, puisqu'il dit dans l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Donc le corps ressuscité du Christ, on pourrait dire, c'est le corps du Christ entré dans l'éternité de Dieu. Et c'est justement parce qu'il est entré dans l'éternité de Dieu qu'il peut précisément se faire reconnaître des siens comme identique à celui qu'il était avant la passion et la mort sur la croix. Peut-être je reviendrai un petit peu là-dessus au début de la prochaine séance. Ce qui est en jeu à travers ça, c'est en fait la compréhension biblique de l'éternité. Spontanément, nous avons toujours tendance à comprendre l'éternité comme le contraire du temps. Or, ce à quoi la problématique biblique nous invite, c'est à une compréhension de l'éternité qui ne soit pas comprise comme le contraire du temps, mais qui soit comprise comme la possibilité ou l'expérience d'être identique à soi-même par-delà la différence des temps. Dieu, dans l'Ancien Testament, se révèle comme éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est identique à lui-même par-delà la différence et la succession des générations. Et bien de même, dire que le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est dire que le Christ est identique par-delà la différence, par-delà l'interruption de la mort, le Christ est identique à ce qu'il était avant les jours de sa passion et non moins identique à ce qu'il sera dans le temps de l'histoire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ça va un peu vite sans doute, mais bon. La semaine prochaine, on repartira de là. On reviendra là-dessus, on repartira de là, parce que c'est à partir de là qu'on pourra essayer de comprendre quelque chose de ce qu'on appelle la préexistence du Christ et son éternité.